Vous écoutez On lit pour vous.
Des acteurs, avec un petit plus, un texte de Marie-Josée Roy, paru le 8 avril 2024 dans la presse. Nuit blanche, le temps des framboises, l'œil du cyclone, à propos d'Antoine, nous, Stat, et maintenant Vestiaire, ces fictions d'ici ont tout en commun de mettre en vedette des acteurs vivant avec un handicap. La presse a rencontré trois de ces interprètes prometteurs, dont la différence n'est pas un frein à leurs aspirations. Rien n'est impossible. Louis-David Gautier. Un immense bonheur. Voilà comment la famille de Louis-David Gautier, l'espiègle Charlie de l'œil du cyclone, dépeint son expérience dans les coulisses de la comédie familiale. Sa différence, la trisomie 21, l'interprète, extraverti de 24 ans, s'en sert surtout comme outil de charme. Louis-David Gautier peut avoir de la difficulté à se faire comprendre, mais il ne manque pas de verve. Alors que ses parents expliquent la routine de leur fils et vantent ses talents, dans un café de la Montérégie, le principal intéressé les interrompt joyeusement pour fournir des informations sur lui-même, blagues comprises. En parlant de sa coach de jeu, la comédienne Geneviève Néron, rencontrée il y a 8 ans au regroupement pour la trisomie 21, grâce auquel il est maintenant artiste professionnel, Louis-David pointe son nez en mimant un cercle du doigt illustrant un nez rond. Louis-David a obtenu son premier contrat en 2016, une prestation de danse au festival Transamérique, puis a commencé à faire de la figuration dans les émissions « Nous », « Le temps des framboises » et « Comme des têtes pot de poule ». Au tournage de « L'œil du cyclone », dans laquelle il tient le rôle de Charlie depuis 4 saisons, Louis-David est accompagné par sa professeure et par un parent, qui demeure à l'écart pendant qu'il s'avère dans sa loge et tourne ses segments. Geneviève Néron s'installe à proximité de son protégé pour l'épauler. Quand Louis-David s'enquiert de ses performances auprès des réalisateurs Alain Chicoine et Julie Hogg, on lui répond d'un high-five ou d'un câlin. Avant que le tournage commence, ils ont pris le temps de l'accueillir dans une salle de conférence pour lui présenter les comédiens qu'il allait côtoyer. Ils sont chaleureux, gentils, bienveillants, attentionnés et patients avec lui, raconte Nancy, la mère de Louis-David, à propos de l'équipe de l'œil du cyclone. Ses co-vedettes lui rendent bien son affection. Véronique Cloutier dépeint Louis-David comme un jeune homme formidable, attachant, très bon acteur, agréable à côtoyer, ricaneur. Christine Beaulieu, qui partage beaucoup de scènes avec lui, ajoute dans un élan d'affection que « jouer avec Louis-David, c'est réapprendre à écouter son partenaire de jeu ». Louis-David possède, de façon naturelle, ce que les acteurs travaillent et cherchent longtemps à obtenir. Il a le cœur ouvert, sans retenue, sans barrière. Il se dévoile humblement et tout entier. Il séduit son public et se rend absolument irrésistible, estime l'interprète d'Isabelle, mère de famille monoparentale au cœur des vignettes de l'œil du cyclone. Sans barrière. Notre jeune interlocuteur avait été avisé qu'une journaliste allait s'intéresser à lui. Il prend la notion d'entrevue très au sérieux et nous parle de ses cours de cinéma et de danse, de son travail dans une friperie, de ses passions pour la nage, le vélo, la raquette, la guitare. Il rêve de gagner de l'argent à la poule aux œufs d'or et d'habiter seul en appartement. Chez les Gautier, on met l'accent sur le positif et surtout, on n'impose aucune barrière à Louis-David. Depuis qu'il est jeune, on essaie de l'envoyer partout. On l'a ouvert à diverses activités. Je ne voulais pas lui mettre de barrière. Je me disais, qu'il s'en mettrait lui-même. C'est une personne à part entière. On veut vraiment respecter ses choix et ce qu'il aime. C'est une grande victoire pour nous qu'il ne se sente pas différent, affirme sa mère Nancy. On a chacun nos forces et nos défis. Enchantée du respect prodigué à sa progéniture sur le plateau de l'œil du cyclone, la mère de Louis David estime que le producteur KOTV et Radio-Canada marque un grand pas dans la représentation de la diversité à l'écran en incluant le garçon de façon si chaleureuse dans ce projet. Je suis très contente, parce que c'est ça, la vraie vie. On est tous différents, on a chacun nos forces et nos défis. Je suis très heureuse que la télé ouvre vers cette diversité-là. On a donné à Louis David un beau rôle, charmeur et attachant. On fait bien vivre la différence à travers l'œil du cyclone. On leur en est vraiment reconnaissant. Vous écoutez « Des acteurs avec un petit plus », un texte de Marie-Josée Roy, paru le 8 avril 2024 dans la presse. Un sourire sans âge, Stéphanie Coll. Dans « Nuit blanche », Stéphanie Coll campe Jeanne Hébert, qu'on suppose au début de la vingtaine. Dans le court-métrage « Mon cœur de tomate », elle personnifie Madeleine, sexagénaire atteinte de la trisomie 21, composant mal avec le vieillissement. Un rôle qui exigeait d'elle 2 heures quotidiennes de maquillage et une aussi longue période de dépoudrage. L'apparence aussi juvénile que mature de l'actrice de 39 ans et son regard lumineux lui permettent de tout jouer. Timide en entrevue, offrant de courtes réponses, mais rieuse et à l'écoute, Stéphanie Coll compte de nombreuses autres qualités, faisant d'elle une excellente comédienne, selon son professeur et coach de jeu, Martin Perrault. Les personnes en situation de handicap sont plus intelligentes que nous sur bien des affaires, estime ce dernier. Stéphanie comprend tout. Elle peut te lire sans que tu dises un mot. Elle ressent des choses que des humains neurotypiques ne capteraient pas. Ce qui est beau de Stéphanie, c'est qu'elle aime jouer. Elle consomme beaucoup de télévision québécoise. Elle connaît tout, voit tout et connecte bien avec les acteurs et particulièrement les actrices. Vous devriez voir son sourire s'élargir lorsqu'on mentionne les interprètes de sa maman fictive de Nuit blanche. Valérie Blais, remplacée par Brigitte Lafleur dans le deuxième chapitre à venir. On a auparavant pu voir Stéphanie dans « Une été neuf » et dans une scène de hockey Cosomme aux premières heures de Léo. Parfaitement prête. Stéphanie Coll a tenu des emplois dans une friperie et un supermarché avant de pratiquer son art. Il y a une dizaine d'années, elle a intégré l'établissement Les Muses, école artistique professionnelle destinée à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle qui déniche des contrats à ses élèves. Elle venait de craquer pour le film Gabrielle de Louise Archambault, où une jeune adulte touchée par le syndrome de Williams cherche à s'émanciper. Mon frère avait fait un petit spectacle à son école. Je suis allée le voir. Ça m'a donné le goût d'en faire aussi, explique la résidente de Beaconsfield, actuellement en attente d'un appartement adapté à sa réalité. Quand elle débarque sur un plateau de tournage, Stéphanie est prête jusqu'au bout des ongles, insiste son coach de jeu. Elle connaît son texte. Elle en a décortiqué les intentions avec lui. « Je prends des notes », indique la principale intéressée, et a accompli des exercices de diction, notamment à l'aide d'un bouchon de liège, procédé que l'homme conseille à tous les acteurs, handicapés ou pas. Elle ne chiale jamais. Elle a toujours le sourire. Son côté professionnel a rassuré l'équipe de Nuit blanche, souligne Martin Perrault. Comme ses collègues, Stéphanie Coll a dû faire de longues journées de travail, allant parfois de 4h45 le matin à 1h la nuit suivante. Stéphanie a participé à 14 jours d'enregistrement dans le premier volet et 4 dans le deuxième. Sa présence sera encore importante dans la suite de 8 épisodes, mais moins révélatrice d'indices que précédemment. À quoi rêve Stéphanie pour l'avenir? J'aimerais jouer dans L'œil du cyclone, parce que je l'écoute. Ça n'a plus sa place en 2024. Geneviève Bouchard, responsable de la transition vers la vie professionnelle à l'École des Muses, reconnaît que de grands efforts sont déployés dans les séries québécoises pour inclure les personnes handicapées. Il y a plus d'ouverture aux gens en situation de handicap. Plus on va en voir, plus ça va normaliser la chose, la désacraliser et faire bouger la société. Plus on constatera à quel point ils sont capables de jouer, plus on développera des rôles avec de la chair sur l'os, où on ne focalisera pas seulement sur la difficulté du handicap. Toutefois, on a des artistes qui ont passé une audition l'an dernier et la production a finalement décidé de choisir des acteurs neurotypiques. Je trouve ça déplorable. Ça n'a plus sa place en 2024. Il y a des artistes professionnels qui peuvent combler ces rôles-là. Stéphanie Coll, quant à elle, est-elle offusquée lorsque des acteurs neurotypiques décrochent des rôles de personnes handicapées? Elle réfléchit un instant, puis dégaine candidement son verdict. C'est pas la fin du monde. Vous écoutez Des acteurs avec un petit plus, un texte de Marie-Josée Roy, paru le 8 avril 2024 dans la presse. Qui a peur des sourds? Xavier Chalifou. Le jeune William incarne le calme, voire le gros bon sens, dans la famille survoltée des Davelui Conley du temps des framboises. C'est peut-être son silence attentif de garçon sourd qui lui confère cette aura de sagesse. Une maturité semblable émane de son interprète, Xavier Chalifou, qui voudrait bien que les gens cessent d'être embarrassés par la surdité. Xavier Chalifou a obtenu le rôle de William dans Le Temps des Framboises, son premier engagement devant la caméra, par l'entremise de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, que la production de la série de Club Illico a contacté pour dénicher une perle rare. Ça m'a amené dans un milieu que je ne connaissais pas. J'ai appris et acquis de l'expérience sur plein de choses, soutient-il. Contraint par un virus de demeurer à leur maison à Terrebonne, c'est en visioconférence que Xavier et sa mère, Sivan Cohen, répondent à nos questions en présence de Martin Asselin, interprète en langue des signes québécoise. Celui-ci traduit les propos de part et d'autre, empruntant les intonations propres à chacun, comme le rire gêné d'un jeune lorsque le faciès de Xavier le suggère. Martin Asselin n'a pas non plus quitté Xavier d'une semelle lors des tournages des deux saisons du Temps des Framboises, respectivement réalisées par Philippe Falardeau et Guillaume Lonergan en 2021 et 2023. Un apprentissage. Pour lui permettre de communiquer avec ses collègues comédiens, Sandrine Bisson, Elisabeth, Elijah Patrice Junior et Micheline Langteau Martha, ainsi qu'avec le reste de l'équipe, une préparation s'est faite en amont du tournage. Les acteurs ont reçu des vidéos où une personne de la communauté sourde exécutait en langue des signes québécoise les répliques des co-scénaristes Florence Lompré et Suzy Bouchard pour pouvoir les mémoriser et les reproduire. Sur le plateau, Martin Asselin était constamment sur le qui-vive afin d'expliquer à Xavier la moindre directive émise par le réalisateur. C'est fou combien les acteurs ont amélioré leur langue des signes entre la première et la deuxième saison, glisse Xavier. On pouvait se parler à l'extérieur de nos répliques. Une autre artiste sourde, Jade Mayclaver, s'est d'ailleurs ajoutée à la distribution du Temps des framboises pour son deuxième chapitre. Elle personnifie la tutrice de William. Les Chalifoux croient-ils que tous les rêves sont à portée de main pour Xavier, malgré sa surdité? Sivan Cohen, elle-même sourde de naissance, opine vivement à la question. À 3 mois, il commençait à faire certains mots en langue des signes, comme s'il babillait. Je lui montrais des images dans un livre. La surdité ne limite pas une personne. Mon fils est excellent en français, c'est un passionné de lecture. On l'a nourri très jeune. Maintenant, il sait se débrouiller. S'il est incapable de se faire comprendre, il écrit un texto. Quel message Xavier aimerait-il transmettre pour briser les préjugés envers les sourds? Quand on va quelque part et qu'on fait signe qu'on n'entend pas, les gens gèlent. Ils sont mal à l'aise. Je suis simplement sourd, je ne vous sauterai pas dessus, je ne comprends pas pourquoi les gens réagissent ainsi. Mes amis et moi, on en rit. Notez qu'à la demande de la famille, nous utilisons le mot « sourd », un terme sociologique qui désigne les individus qui sont médicalement sourds ou malentendants et qui s'identifient avec et qui participent à la culture, à la société et à la langue des personnes sourdes qui sont basées sur la langue des signes, selon l'Association des sourds du Canada. Il y a beaucoup de potentiel chez les sourds. Sylvain Cohen, mère de Xavier, est fière que son fiston brise probablement un plafond de verre. En exposant la réalité d'un protagoniste sourd dans le temps des framboises et qu'on exploite enfin la langue des signes québécoise à la télévision. Il y a beaucoup de potentiel chez les sourds. On les voit peu, mais il y a tellement de talent. À la télévision, tout s'exprime dans le visage et les expressions. Quand on y montre des personnes sourdes, on prouve que c'est possible de réussir. Beaucoup de sourds font du théâtre et ce sont des gens super compétents. On a envie de pousser la machine pour qu'ils montrent de plus en plus de personnes sourdes à l'écran. C'est vraiment une bonne chose, note la femme qui travaille comme éducatrice spécialisée à l'école secondaire Lucien Pagé, que fréquente son garçon. C'était « Des acteurs avec un petit plus », un texte de Marie-Josée Roy, paru le 8 avril 2024 dans la presse.
C'est « Comment avoir un enfant qui fait de la douance ». Un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 8 avril 2024 dans Urbania. Avez-vous toujours rêvé de savoir comment c'est avoir un enfant surdoué au basketball? De vivre avec un garçon atteint d'un handicap sévère? D'être parent d'une petite de 13 ans qui fait déjà son entrée à l'université? On vous propose de vous plonger dans l'univers de parents qui vivent des situations familiales méconnues en abordant des sujets tantôt drôles, parfois lourds, mais toujours dans le but de mieux comprendre leur réalité. Ce mois-ci, on a jasé avec Stephanie McLean, mère d'un ado de 14 ans nommé Devrick, qui possède la double exceptionnalité, douance et trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Quels ont été les premiers signes qui vous ont fait croire que votre enfant avait une condition particulière? Vers 2 ans et demi, on trouvait vraiment qu'il était à un niveau supérieur comparativement à d'autres enfants de son âge. Il s'est mis à développer une passion pour le système solaire. On lui avait montré un petit livre sur les planètes. On faisait juste lui dire les noms des planètes et il les retenait. Il avait appris à les classer selon leur position par rapport au soleil. Il a voulu savoir de quoi étaient faites les planètes, de quelle matière leurs noyaux étaient constitués. On trouvait ça un peu intense, mais c'était notre premier enfant, alors on n'avait pas vraiment de référence autour de nous. Il était très allumé et intéressé par des sujets qui ennuyaient les autres enfants. Déjà à cet âge, il avait une mémoire phénoménale. Quand quelque chose le passionnait, il retenait tout, comme une encyclopédie. En avez-vous discuté avec son pédiatre? Au début, non. On ne se posait pas tant de questions. Quand il est entré à la maternelle, il y a vraiment eu un gros clash. Il assimilait l'information très rapidement, sauf que, vu qu'il comprenait très vite, il s'ennuyait énormément en classe, ce qui a eu un impact sur son intérêt et son comportement. De la maternelle à la troisième année, ça a été très difficile. Par contre, ses notes étaient exceptionnelles. Il était dans les 95% et plus, sauf qu'il s'ennuyait profondément. Il dérangeait, et là, son TDAH ressortait. Il ne tenait pas en place. Dans le système scolaire qu'on a, si tu as des bonnes notes mais que ton comportement n'est pas optimal, tu es un peu laissé à toi-même. C'est en troisième année que la professeure a vu qu'il avait une façon de fonctionner différente des autres. Il avait beaucoup de difficultés avec sa gestion des émotions, comme la colère, et c'est par la suite qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas juste une question d'intelligence. Au contraire, c'est une question de stimulation, d'intérêt. C'est très complexe au niveau psychologique. Divry n'était vraiment pas bien dans sa peau. Il avait des réactions disproportionnées, de la difficulté à se contrôler. Il s'est mis à avoir des idées noires. Ce que les médecins nous disaient, c'est qu'il était sûrement hyperactif, qu'il avait un déficit de l'attention. Sauf que ça n'allait pas plus loin. Puis, j'ai une collègue de travail dont le fils avait eu un diagnostic de douance qui trouvait que mon expérience et la sienne avec son fils se ressemblaient. Elle m'a fait lire sur le sujet de la douance et c'était comme si tout ce que je lisais décrivait mon fils, point par point. Quand il a eu 9 ans, on est allé voir une neuropsychologue spécialisée en douance et c'est sorti assez vite. Douance avec TDAH, soit une double exceptionnalité. Donc, entre 3 et 9 ans, vous vous doutiez de quelque chose, mais ce n'était pas diagnostiqué. C'est bien ça? Non, tout ce que les gens nous disaient, médecins ou autres, c'était qu'il était très allumé, que ça allait s'équilibrer avec le temps. Il est né en décembre, donc il avait presque une année d'avance sur les autres. Les gens disaient qu'étant donné qu'il était plus vieux, que c'était normal que ça soit plus facile pour lui. Il y avait toujours des explications logiques selon les professionnels à qui on parlait. Nous, on avait l'impression qu'il était différent, mais en même temps, on finissait par se demander si c'est nous qui voulions qu'il soit différent. Plus on rencontrait des amis avec des enfants du même âge, plus on voyait qu'il y avait quelque chose de différent. C'était rock and roll jusqu'à ce qu'on ait le diagnostic. À partir de ce moment, tout a changé parce qu'on était maintenant en mesure de comprendre comment son cerveau fonctionnait, de lui expliquer pour qu'il comprenne que c'était normal qu'il ait de la difficulté à contrôler ses émotions. L'information rentre tellement vite dans son cerveau qu'il n'a pas nécessairement le temps de bien analyser, ce qui l'amenait à réagir trop rapidement. Juste de pouvoir mettre des mots sur comment il se sentait et pourquoi il agissait de cette façon, ça lui a permis de mieux comprendre ce qu'il vivait. J'ai suivi une petite formation pour mieux adapter ma façon d'agir. Souvent, on lit dans des livres comment on doit se comporter avec les enfants. Tout le monde va à droite, mais avec une douance, il faut aller à gauche. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que tout ce dont il avait besoin, c'était que je le comprenne, parce que tant que je ne le comprenais pas, il continuerait à s'obstiner. Je dis ça, mais pour lui, c'est du dialogue. Il faut prendre le temps d'écouter, de répondre. Sauf que des fois, c'est pas facile, parce que ça demande beaucoup de patience. Une fois qu'on comprend comment notre enfant fonctionne, on peut mieux communiquer avec lui et l'aider à s'épanouir. Qu'est-ce que ce diagnostic a changé dans sa vie, dans votre vie de famille? Ça a changé notre façon de fonctionner parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup communiquer. Il faut vraiment lui expliquer les choses pour qu'il les comprenne, sans quoi il peut s'obstiner longtemps. Ça nous a demandé énormément de patience. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de parler, d'essayer de lui faire comprendre notre point de vue, mais surtout de comprendre son point de vue pour qu'il se sente accepté. Ses besoins sont surtout par rapport à l'estime de soi. Divrick est hypersensible. Il faut vraiment être à l'écoute. Croyez-vous que le terme « douance » est perçu de la mauvaise façon par la société? Oui, je pense que ça vient avec des préjugés, parce que dès que tu dis que ton enfant a une douance, les gens vont dire « bon, regarde-la ». Elle pense que son enfant est surdoué, qu'il est bon dans tout, qu'il a un QI plus élevé que la moyenne. Pourtant, je déteste ce mot parce que la douance, ce n'est pas juste une question d'intelligence, ça agit sur plein d'autres aspects psychologiques. Ça peut aussi dire que la personne a une hypersensibilité, un grand sens de l'empathie, de la difficulté à gérer ses émotions. C'est énorme à porter. Oui, c'est vrai que des personnes douées peuvent être très intelligentes et assimiler l'information rapidement, mais les gens vont automatiquement penser « douance » égale « surdoué ». C'est comme si les mots choisis signifiaient quelque chose de complètement différent que la réalité. Souvent, les gens s'imaginent que c'est un enfant qui est bolé à l'école, sauf que ça se peut que le petit bolé de l'école, il n'ait pas de douance. Il est peut-être tout simplement capable d'apprendre vite et d'avoir des bonnes notes, mais c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu as de la douance pour autant. Quand je parle à d'autres mamans dont un enfant a une douance, elles me disent toutes la même chose. On éprouve un malaise et de la gêne parce que ça peut donner l'impression qu'on veut mettre nos enfants sur un piédestal, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est comment avoir un enfant qui fait de la douance? Un texte de Philippe Côté-Giguère paru le 8 avril 2024 dans Urbania.